Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
Bon, alors... Bonjour, vous qui nous écoutez dans l'ombre. Nous vous retrouvons ce mercredi de février pour un deuxième temps dédié aux aléas de nos vies amoureuses. Peut-être le scénario d'un film. Certainement la trame d'une histoire avec ses joies, ses liesses, ses tourments. Les choses de la vie qui prennent des allures de conte à raconter les soirs près des feux de bois. Lui, elle, l'autre, tous les autres, l'embellie du coucher du soleil, les fracas entre deux frontières, les chagrins d'une absence. Enfin, tout ce qui nous émeut et donne du sens à la minute suivante. Quatre nouvelles pour dire des situations improbables. Et pourtant, nous les vivons au quotidien. Pour ponctuer ces lectures, nous faisons appel à des extraits de l'album Waves of Light, où Paul Lay, un habitué de la folle journée de Nantes, s'inspire d'Emily Dickinson ou de Pablo Neruda.
Elle avait connu le grand amour, seul, unique, pour toute une vie, qui ne finirait jamais, éternel. Mieux encore, elle l'avait construit dès ses 18 ans. Ils s'étaient connus adolescents, deux regards jeunes, vifs, qui pétillent en se croisant. Tour à tour allumettes et frottoirs, les yeux de l'un regardaient l'autre pour déclencher l'étincelle. Quand leurs mains se touchaient, quand leurs lèvres se cherchaient, quand leurs corps se mélangeaient, l'embrasement succédait au feu d'artifice. Cette flamme entretenait leur passion. Leur rébellion commune contre la famille, la société l'avait fortifiée quand les parents redoutaient de les voir vivre ensemble à 19 ans. La fille souriait de l'émoi de sa mère. « Il est bien tôt pour avoir des enfants. » Le fils riait de l'inquiétude de son père. « Ne ferais-tu pas mieux de terminer d'abord tes études ?» Cette opposition aux parents soudait leur confiance, quand la contestation de la société fleurissait leur insouciance des ornements de la provocation. Naturellement, il ne voulait pas se marier, formaliser cette coutume d'un autre âge quand l'homme imposait sa loi. Pas de parchemin pour leur liberté dans l'égalité. Pour les enfants, on verra plus tard. Elle avait échoué en première année de médecine, était devenue infirmière et se plaisait dans l'intérim. La vie n'est pas faite pour accumuler du capital, mais pour profiter de son temps libre. Lui, à défaut de rentrer à l'ENA, se contentait de l'Institut régional d'administration. Somme toute, ils vivaient assez confortablement, se trouvaient bien dans leur havre libertaire. Le temps est pourtant plus malicieux qu'elle ne l'imaginait. Il installa des habitudes. Elle ne s'en rendit pas compte de suite, mais la flamme réchauffa de plus en plus de souvenirs, de moins en moins de découvertes. Quand il prit une amante, elle prit un amant. Elle continua de vivre avec lui pourtant, pour de mauvaises raisons. Un arbre ne s'arrache pas facilement à la terre où il a enfoncé ses racines, même quand le sol a perdu sa fertilité. Le refus cheminait pourtant, ce dont plus ou moins inconsciemment elle avait rêvé. N'était plus la réalité. Pire encore, ses désirs n'étaient plus les mêmes. Elle l'écoutait sans rien dire, expliquait qu'affranchis comme ils l'étaient, leur confiance ne pouvait pas être entamée par des vagabondages, qu'au contraire, leur relation s'enrichirait d'autres expériences. Libéré comme il le voulait, son état de fonctionnaire n'en faisait pas un rond de cuir, qu'au contraire, il profitait de son travail pour faire de l'agit-prop. Sa sécurité de revenus leur permettait de se consacrer tranquillement à la Révolution. Elle n'y croyait plus, ou si peu. Son corps goûtant des plaisirs nouveaux avec un autre homme plus mûr ne se livrait plus comme avant à son ami. À son étonnement, effrayée, elle finit par ne plus le désirer et se perdit quelque temps dans des étreintes de plus en plus audacieuses avec des partenaires sans lendemain. Elle n'en fut satisfaite que l'espace de ces quelques nuits. elle finit par admettre ce qu'elle désirait, jouir dans les bras de celui qui serait digne d'être le père de ses enfants. Ses yeux s'ouvrirent. Son révolutionnaire s'enfonçait dans une vie bien réglée, garantie, statutaire. L'aventurier n'existait que dans le discours. Dans un dernier sursaut, elle lui proposa de partir en Afrique. Il lui répondit qu'il perdrait tous ses avantages et des années pour la retraite. Pire encore, son esprit ne se satisfaisait plus du militantisme. Elle réalisa que ce qu'elle avait aimé, c'était plus la fraternité du groupe que des idées bien relatives, aussi vieilles qu'irréalistes. Elle voulait poursuivre ce qui l'avait enchanté, de vraies rencontres entre personnes, s'enrichir à travers les autres, la rencontre avec celui qui construirait avec elle un vrai avenir. Elle ne se perdrait plus dans cette recherche de paradis utopique pour concrétiser désormais ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Elle se connaissait maintenant. Elle ne se contenterait pas de l'écume des choses. Assez compétente pour être reconnue professionnellement, assez sportive et aimable pour être bien entourée, assez belle pour séduire, assez honnête pour hésiter et réfléchir de longues nuits, assez courageuse pour le quitter, lui qui n'oserait jamais décider. Assez intelligente, délicate aussi, pour lui expliquer doucement que c'était définitivement fini. Elle partit avec une amie au Canada. Ils avaient besoin là-bas de spécialistes en oncologie. Une nouvelle vie commençait. Conquérante d'un nouveau monde, cela fit du bien à l'oiseau blessé de randonner, parcourir de grands espaces. N'ayant plus besoin de s'opposer pour exister, elle approcha la sérénité, plus libre qu'elle ne l'avait jamais été. Elle rencontra celui qui, imparfait, fut le digne père de ses enfants.
Elle dira que je mens pour tout, mais ça n'a pas d'importance, c'est moi qui écris. Maria Pourchet, dans Toutes les femmes sauf une. Au beau milieu de ce brouillard surgissent les êtres justes. À quoi tient la justesse? Bon, et après? Je vais pas me péter une durite ou m'abîmer la rétine pour un message de mon ex. C'est devenu rituel chez elle, un caprice de fin d'année. Il faut qu'elle souligne que notre vie ne fut pas un long fleuve tranquille ou que je sois bingo, un texto, histoire de me suggérer qu'elle, elle sait vivre. Elle sait lire et moi je stagne comme toujours dans la fange grasse de l'ignare. Comme souvent, après la réception de ces messages, mon esprit se remplit d'espaces blancs, de parenthèses, de points de suspension. J'avais l'habitude de noter dans un carnet à spirale toutes ces petites phrases et le commentaire qu'elles m'inspiraient. Ce 31 décembre, une soirée pas comme les autres. Un désir de fuir le monde. J'erre dans la cuisine après avoir annulé tous mes projets d'invitation ou de balade nocturne sans but précis. Je viens de boire deux saveurs du soir, j'écoute The Greatest de Pat Cower, j'interroge les ombres, mécaniquement je m'attarde sur une page de mon carnet. La solution du problème que tu vois dans la vie, c'est une manière de vivre qui fasse disparaître le problème. Une énigme de plus. Durant quelques minutes, j'ai endossé l'attitude du penseur, le corps figé, le regard perdu dans le lointain, mon souffle aspiré en eau profonde. Faute de griffes, je me suis réfugié sur la terrasse. La nuit de la Saint-Sylvestre, le frais, le silence, je dois balbutier quelques lubies avec les étoiles quand une vague lumière auréolée de rouge souligne les horizons. Un gros pétard explose, un éclair déchire le monde en deux, dans la marge se dessinent les contours de la boîte à Pandore. S'échappent alors des scènes et des souvenirs que je croyais bannis. Je reste indifférent au spectacle pyrotechnique. Pourtant, ces bouquets féeriques et ces embrasements de lumière ouvrent des portes sur les années où nous embrassions la vie à deux. Une gerbe d'étoiles bleues et se dessine le bal à papa sur un bras de la Loire. La soirée pour célébrer la fin du bac. L'ambiance insouciante, chaleureuse, le monde ouvert à toutes les folies. Et les danses de salon, valse, tango et surtout le rock and roll de John Lee Hooker joué par Johnny Rivers. Plus de 20 minutes de passe, de virevolte, de connivence. Au final, nous n'étions plus que deux sur la piste. Marie était un feu follet. Une cascade lumineuse embrase le bras de la Madeleine et la fac de médecine. La soutenance de thèse, Marie face au jury, je n'avais rien dit, j'étais dans la salle, subjugué par sa présence, fasciné par sa maîtrise du sujet. Un secret que j'avais gardé longtemps. Toute une série d'embrasements multicolores, les poussières de lumière retombent sur la foule dans les rues. Tout ce monde me renvoie à la cohue du 1er mai 2002. Nous y étions, un peuple déterminé, Marie et moi accrochés l'un à l'autre. El pueblo unido, jamás será vencido. Mieux clic que la payoune. Marie intéressable sur le temps des cerises. Juste avant le bouquet final, la naissance d'Antoine au CHU, un dimanche matin d'hiver, la ville s'éveillait dans le brouillard, les toits, les rues semblaient se dissoudre dans un univers feutré. Marie, apaisée malgré les heures de travail, moi, je racontais la première histoire à un petit garçon endormi. D'autres images se sont immiscées, la randonnée sur le GR des 10 des Pyrénées, le détour par le Vignemale, les raclettes avec les copains, les frissons au concert d'Igelin, toute une période où il ne me semblait pas être catalogué d'ignare. Je ne sais pas quand tout s'est déréglé, les activités professionnelles ont eu bon dos, je rentrais de plus en plus tard, elle multipliait les missions dans les villes lointaines, Antoine et sa sœur Julie souvent réfugiés chez les copains ou les grands-parents, les rages, les grincements de dents, les paroles assassines, le désir en berne, je ne sais même plus quelle goutte a fait déborder le vase. Sur la terrasse, je frissonne, le silence s'impose. Les étoiles appellent les rois mages dans un ciel sans lune. Ça se bouscule dans ma tête, le passé, le présent, les lendemains brouillés. Les mots, les images emportées au gré des marées. Demain, Antoine et Julie reviennent d'un séjour à la montagne avec leur mère. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Marie restera mon ex.
Es una copa llena de agua fría. Bajo los árboles, la luz de la noche, la luz verde que fulgura el río, que cae con la fresca.
Dérailler sur cette voie, ligne 3 du tramway. Ma station de départ se nomme Beau Séjour, prometteuse. Je m'en éloigne pourtant pour un boulot qui n'a pas autant de jolies perspectives d'avenir. Je suis mise sur les rails du « de devoir gagner sa vie », parole rébarbative des parents. Pour me rendre à mon travail, je vis dans le tramway un véritable chemin de croix. Aux heures de pointe, c'est le calvaire. Serrés comme des sardines dans leur boîte, je frétille dans des huiles déjà rances. La marée humaine, en dos trouble, semble aller vers des vents contraires, contrariés. Le soir, c'est pire. Épuisé, je vomis le venin des journées du travail forcé et indigeste. J'ai pourtant d'autres appétits, comme poursuivre des études. Je m'appelle Rose, mais la vie n'est pas rose. Certaines stations sont là pour enrichir mes connaissances en culture générale. Je me sers de ces plaques bleues au-dessus des aubettes. À Félix Faure et à Jean Jaurès, je me familiarise avec l'histoire, la politique. À Longchamp, je vois des chevaux. À Poitou, des chèvres. Je galope entre géographie et monde animal. Je voyage. À Sainte-Thérèse, je pourrais voir rouge. Mon frère trouve que cette église ne casse pas des briques. Moi, elle m'apaise. À Viarme, je me sens l'âme d'une archéologue. Je fais des fouilles. Je brocante des trésors trouvés. Je suis à la fois sous cette place et au-dessus. Je m'imagine au centre d'une foire aux bestiaux, des vaches libérées de leurs charrettes, ou en pleine guerre de Vendée avec charrettes. Au commerce, c'est la bousculade, trafic en tout genre. Plaqué sur le marchepied, je bascule sur le quai pour laisser passer les gens qui descendent. Ensuite, je m'engouffre dans cette foire d'empoigne pour remonter et trouver une place assise. Puis vint les horaires saugrenus, tôt le matin ou tard le soir. Ils me pèsent encore plus lorsqu'ils sont coupés avec des trajets multipliés par deux. Dans la rame presque vide, je deviens parano, avec la peur de l'autre qui me dévisage, peur qu'il engage un dialogue de sourd embarrassant. Parfois c'est plus cool. J'observe le lever du soleil sur la Loire, et mon regard imagine l'envol d'un oiseau marin. Je plane et je regarde de haut, un drôle d'oiseau qui boite à moitié dans le soufflet du tram accordéon en perdant son équilibre. Le jeune homme paraît blessé. Il s'assoit en face de moi. A-t-il perçu que j'étais aide-soignante? La toute première conversation est banale. « Vous allez à l'hôpital ?»« Oui, lancé avec colère me désarçonne, mais je garde l'impression désagréable pour moi. »« À l'hôtel Dieu, il ne descend pas. Alors, pourquoi m'a-t-il dit oui ?» Sa réponse était comme un accouchement prématuré. Alors je me tais, j'ai les dents serrées. Pour éviter de voir sa tête de chien battu, j'aurais aimé qu'il descende se perdre dans n'importe quelle rue. Tiens, par exemple, le prochain arrêt se nomme Aimé Delrue. Un je ne sais quoi me pousse à ne pas gâcher l'occasion d'un entretien, si faible soit-il. À Vincent Gache, je me contrôle et je dis « Peut-être allez-vous au Confluent vous faire soigner. J'y vais aussi, je peux vous aider. Vous ne semblez pas être à l'aise. » Un curieux et long silence persiste avant un timide « Merci. » Tout d'un coup, j'ai eu envie de materner cet homme en détresse, je le vois autrement. À Wattignies, un éclair dans les yeux le rend plus vif, comme s'il avait gagné une bataille. Cette victoire est drôle. Nous sommes face à ce contexte historique, pile avec notre réalité. Si la station s'était appelée Waterloo, j'en aurais été toute renversée. Mon vis-à-vis se détend, il s'appelle Jacques. Il a bousillé sa moto au week-end, mais il a toujours pris le tram pour travailler. « Je pense que nous sommes collègues, réalise-t-il soudain. Mais nous ne nous sommes jamais vus. » J'acquiesce, prise dans cet élan. Je continue le dialogue qui se veut de plus en plus amical. « Ce serait bien de se revoir, osais-je dire. À Mangin, l'invitation se confirme pour manger un soir dans un resto sympa. » Nous descendons tous les deux à Pierre-Mille, liés imperceptiblement par cette brève rencontre. En traversant ce point relais, une question me brûle les lèvres. Avec un « tu es à toi » venu spontanément, je lui demande « tu fais quoi comme métier à la clinique ?»« Je suis en stage dans le service du docteur Berger en ophtalmologie. Je termine ma dernière année de médecine. » Je reste bouche bée. À Pierre-Mille, j'eus la pire des révélations au milieu de mille réponses. Tout s'emballe au fond de mon crâne. J'ai une cataracte qui soudain me voile l'avenir. Sur quel bateau me suis-je embarquée ? « Oh Rose, tu t'es fait un film !» Jacques se noiera dans ton cœur glacé. La traversée était trop belle. Quel naufrage!
Avant d'être un acte d'expression, écrire est un acte d'écoute. Il faut longtemps se taire et apprendre à entendre, puis seulement à parler. Antoine Wauters dans Le plus court chemin.
Ce lundi 12 janvier 2026, sur le seuil de leur appartement, Eliane et Rémi se tiennent la main du bout des doigts. Leurs regards sont emplis de tristesse, mais sans larmes. Celui d'Eliane est plus résolu, plus pénétrant. Il ne prononce aucun mot. La décision a été prise, discutée, des actes ont été posés. Le futur immédiat est choisi. Ils ne peuvent ni ne veulent le changer. Eliane lâche les doigts de Rémi, s'écarte de lui et franchit la porte, se retourne pour un dernier signe de la main et s'éloigne, la démarche déterminée. Rémi a pris son imperméable, posé sur une chaise, franchit la même porte d'un pas plus lent, sans énergie. La pluie l'agresse. Tête baissée, il traverse l'avenue, les voitures le frôlent, des conducteurs l'insultent, mais il n'est plus là. Absent, ses pensées le ramènent de nombreuses années en arrière, en 1992. Lorsque, traversant une autre rue, un jour d'automne, ébloui par le soleil, il ne voyait pas une voiture foncer sur lui. Une femme a crié, couru vers lui pour le retenir brutalement par le bras. Ils sont restés quelques instants accrochés l'un à l'autre, puis ont traversé la route pour finir sur la terrasse couverte d'une brasserie autour d'une petite table ronde, une tasse de café pour lui, un verre de Côte-du-Rhône pour elle. La conversation est facile, ils échangent leurs prénoms. Rémi a su apprécier sa simplicité, sa spontanéité, cette envie de rompre avec la vie citadine, de retourner aux sources, près de la nature, disait-elle. Envie qu'il partage, lui dit-il, sans être vraiment sûr de ce dont il s'agit. Il a moins aimé sa façon de se moquer des gens âgés, passant devant eux la silhouette voûtée, le pas hésitant sur la chaussée mouillée. Rémi pressant en elle une double personnalité, une partie cachée. Mais c'est aussi ce qui l'attirait. Rémi, de son côté, menait une vie plutôt sage. Sa préoccupation essentielle était de ne pas se faire remarquer, d'être une ombre. Après avoir vécu des années de galère, des mois à faire la manche, à s'être nourri grâce à quelques rapines, après avoir connu à plusieurs reprises l'ambiance festive d'un tribunal et le ton amical de son président, avoir disparu dans le confort d'une cellule et la franche camaraderie des gardiens, où il avait résisté aux tentations de l'oubli par les drogues. À la sortie, cassé, il s'est fondu dans le monde des travailleurs. Il a trouvé un poste de veilleur de nuit. Les siennes n'existaient plus. Eliane et Rémi ont vécu 2 jours, 2 nuits d'impatience avant de se retrouver à la sortie du travail d'Eliane, vendeuse chez Chaussolde, avant d'aller voir Les Nuits Fauves, ce film qui faisait scandale et agitait les milieux branchés. C'est Eliane qui a proposé ce film. Pendant la séance, Rémi a découvert une autre Eliane avec un visage figé, tendu, aspiré par l'écran, les poings serrés, les genoux tremblants. Il a pensé un instant que sa main posée sur son genou l'indisposait. La maigreur de celui-ci le surprend. Il retire sa main. Pourtant, Eliane tremble toujours. Rémi regarde le film avec une certaine indifférence. Il ne l'aime pas, trop glauque, trop destructeur. De par son passé, Rémi recherche des temps de repos et de lumière. À la sortie, ils se sont quittés rapidement. Eliane tremble et souhaite être seule. Dans son studio, mur vide de décoration, une assiette sale et une fourchette traînent sur la table ainsi qu'une boîte de conserve à moitié vide. Le frigo, collé à un vieux buffet aux portes à la moitié entrouvertes, fait face à un convertible dépouillé. Eliane s'est assise dessus, un verre à la main. Une bouteille de vodka à ses pieds. Elle craque après plus de 3 mois d'abstinence. Chaque fin de journée, pendant une semaine, Rémi est venu l'attendre devant la boutique de chaussures, en vain. Chaque jour d'absence renforçait son désir de la connaître, de devenir son complice. Un matin, elle est apparue de nouveau, et cette fois, c'est elle qui l'attendait à la sortie de son travail. Rémi ne lui a pas demandé d'explication. Ils ont erré dans la ville, se sont amusés à faire plusieurs fois le parcours complet de la ligne 2 du tram, récemment ouverte. Eliane s'est sentie apaisée près de lui. Ils ont ri de s'imaginer vieux assis dans le même tram dans de nombreuses années. Très naturellement, Rémi s'est installé dans le studio d'Eliane. Il a fait le ménage, interdit l'alcool, tapissé les murs de photos des couchers de soleil. La vie est revenue, un enfant est apparu, le studio est devenu trop petit. Rémi a changé de métier et est devenu un photographe reconnu. Eliane a évolué vers la profession de conductrice de tram. Dans le nouvel appartement, Rémi a tapissé de nouveaux couchers de soleil, ainsi que de l'âme se brisant sur des rochers, de photos de lui et d'Eliane, ainsi que de leur enfant aux différentes étapes de sa vie. Aujourd'hui, ils ne passeront pas la soirée ensemble. Eliane se dirige vers le 14A pour voir le dernier film de Jim Jarmusch. Rémi marche vers le Gaumont pour voir La femme de ménage. Chaque semaine, ils sont allés au cinéma. Et pour la première fois, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un film. Rémi n'aime pas Jim Jarmusch et Eliane n'aime pas les thrillers.
Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et j'ai commencé à me changer moi-même. Un poète persan.
Vous avez entendu des nouvelles de Patrick Monvoisin et de Marie-Hélène Grimaud, lues par Elisabeth Lemerdy et par Muriel Becquet, ainsi que des nouvelles de Michel Frappard et Yves Hamon, lues par leurs auteurs. Au revoir et rendez-vous en mars pour la prochaine émission. Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Couat, Michel Frappard, Yves Hamon, Bernard Zieler. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute et bises à partager sur le chemin avec vous.